Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Quelle est la place de l'homme dans la nature ? Il y a d'un côté cette tentation de faire de l'humain un être tout-puissant qui jouit à sa guise de toute la création. Et il y a d'autre part une autre déviance qui tend à faire de l'homme une espèce comme les autres. C'est donc tout un équilibre à trouver pour garder à l'homme sa dignité d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les biotechnologies, en augmentant les capacités de l'homme et celles des créatures animales et végétales, viennent aussi bousculer cet équilibre. La place de l'homme dans la nature, un écosystème sans cesse à réajuster. Nous en parlons aujourd'hui avec Vincent Grégoire Delory, maître de conférence en philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour monsieur.
Bonjour, bonjour à tous.
À vos côtés, Fabien Revol, théologien et philosophe, directeur du centre Hélène et Jean Bastère dans le Lot. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, nous allons peut-être commencer par un constat. C'est vrai que quand on voit des images d'abattage d'animaux, on peut être ému, on peut être touché. Est-ce qu'on est autant ému quand on voit des scènes de guerre ? Et qu'est-ce que ça nous dit aussi de notre réaction ? Vincent Grégoire Delory, vous voulez...
Oui, c'est vrai que c'est une question un petit peu difficile, un petit peu. D'ailleurs, votre question est presque gênante.
Aïe.
Dans la mesure où, de fait, la question animale, qui est une très belle question, nul n'a envie de voir souffrir des animaux, est devenue une question probablement beaucoup plus fine qu'elle l'était il n'y a pas encore si longtemps que ça. Bien sûr, voir souffrir des animaux, quand on écoute les émissions, quand on les photographies ou les films faits par l'association E214,
L214.
Qui scandalise tout le monde, on voit bien qu'en effet, l'animal acquiert une certaine, dans la société, de certains droits. Hein, le Code civil français en a donné pour des animaux de compagnie, par exemple, un certain niveau. Et le fait de regarder ces animaux, de les protéger, d'ailleurs c'est bien aussi de protéger les animaux, nous amène parfois dans notre société à avoir la balance qui penche, peut-être, je dis bien peut-être, on va en parler, je pense, ce matin, vers une forme d'étonnement, je dirais, entre ce que nous disons de nous-mêmes, les humains, ce que les humains disent des animaux, la protection que nous leur devons, le sentiment que nous leur donnons aussi, et finalement leur place, vous l'avez bien dit, leur place en lien, à la fois dans la nature, bien sûr, mais en lien avec nous. Quelle relation, finalement, avons-nous avec les animaux ? Relation, je pense, assez troublée.
Oui. Oui. Vous voulez compléter, Fabien Revol ?
Oui, je dirais que dans les deux cas, ces images nous interpellent pour deux raisons. La première qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant, c'est de dire que la tradition philosophique occidentale a toujours dit que tout acte de barbarie commis par un humain était une atteinte à la dignité de la personne humaine. Et donc, que cet acte de barbarie soit commis envers un autre humain ou envers un animal, les philosophes comme Emmanuel Kant, par exemple, et aussi saint Thomas d'Aquin ont toujours dit « cet acte de barbarie défigure la dignité de la personne humaine ». Et donc, ça nous fait mal à nous, en tant qu'être humain, parce qu'on se sent atteint nous-mêmes à travers cette barbarie. Et d'autre part, je dirais que... Les sciences modernes mécanistes ont fait perdre quelque chose de notre rapport à l'animal dans sa sensibilité, mais que ces mêmes sciences nous ont fait redécouvrir au cours du XXe siècle par l'étude du système nerveux et par les images qui ont été diffusées dans la presse dans les années 70 autour de l'expérimentation animale, on redécouvre le sens de la souffrance animale. Et donc nous sommes tous atteints par la souffrance de l'autre. Et qu'il soit humain ou non humain. Et heureusement qu'on est touché par cette souffrance, c'est signe de notre humanité. Donc, d'un certain point de vue, c'est une bonne nouvelle qu'on redécouvre cette sensibilité animale. Et je rejoins ce que dit Vincent, de ce devoir de protection et de sentiment qu'on leur doit. Le risque, c'est quand le balancier...
Oui, le curseur se déplace trop.
...va de l'autre côté par effet d'excès inverse. Voilà.
Oui. Lors de la création du monde, Dieu a donné à chacune des créatures un nom. Chaque créature exprime quelque chose de Dieu, chacune à sa manière et selon son degré de perfection. C'est ce qu'écrit le pape François dans son encyclique Laudato Si, au numéro 86. Nous comprenons donc qu'il y a une noblesse de chaque créature qui se complète avec les autres, formant ainsi une harmonie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Fabien Revol?
Ah, c'est magnifique.
C'est magnifique. C'est votre livre de chevet, non?
Oui, c'est mon livre de chevet, oui, tout à fait. Puis surtout, cette partie du chapitre 2 de Laudato Si, les paragraphes 80 à 89, sont ceux dans lesquels je me retrouve le plus au niveau théologique. Donc, je pense qu'il est important de rappeler que les créatures sont voulues par Dieu pour elles-mêmes dans leur gratuité. C'est-à-dire que dans le regard de Dieu, les créatures ont été créées pour manifester la gloire de Dieu dans la création. C'est pour ça que la tradition théologique, à travers notamment le regard de saint Bonaventure, qui réinterprète saint François d'Assise, nous dit, ben voilà, chaque créature porte en elle une trace du Créateur. C'est ce qui participe d'ailleurs de sa valeur propre et d'existence. Et l'être humain est appelé à être celui qui reconnaît cela, comme spectateur. C'est sa fonction de décoder ce livre de la nature écrit par Dieu. Il en est le destinataire pour qu'il soit édifié et qu'il comprenne sa vocation dans la création à travers cette découverte.
Oui, en effet, décoder, hein, comme tu dis, décoder le livre de la nature, c'est exactement ce que font les sciences contemporaines. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que quel que soit l'animal qui soit autour de nous, les bactéries sur cette table, nous-mêmes, les chiens et les chats, nous sommes tous le produit de 3,5 milliards d'années d'évolution. Et donc effectivement, les nommer cette évolution, moi je ne verrai pas les choses, évidemment, je ne suis pas théologien, mais nommer les animaux, leur donner un sens, leur sens propre, une fonction, nous amène à penser à un écosystème extrêmement fin. Et effectivement, le fait de nommer, je crois que c'est le livre de l'Exode en hébreu, hein, Shemot, hein, les noms, hein, le Shemot béni Israël, les noms des enfants d'Israël. On commence par nommer. Et je pense qu'effectivement, d'ailleurs, Dieu nomme. Hein, donc effectivement, il me semble que cette prise de conscience à la fois de cette évolution commune qui forme un écosystème commun avec des relations communes qui n'empêche pas, effectivement, des responsabilités différentes. Mais ça, je pense, c'est extrêmement important de le voir, ça. Comme on a parfois tendance, me semble-t-il, même symboliquement, à imaginer que les animaux sont moins évolués que nous. Alors oui, évolués, je ne sais pas, mais en tout cas, on a la même histoire. Mmh. Et ça, je pense, cette histoire commune, il faut bien peut-être le reprendre, le signifier, de dire que nous sommes dans une histoire commune, un écosystème commun. Et ça, c'est déjà énorme de pouvoir le signifier et d'en prendre conscience.
Oui, c'est vrai. Le catéchisme de l'Église catholique précise aussi qu'aucune des créatures ne se suffit à elle-même. Oui. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Qu'est-ce que nous dit cette dépendance des créatures les unes envers les autres, Fabien Revol?
Ah, elles nous disent que nous ne pouvons pas exister indépendamment des autres créatures parce que, à travers ces relations de type écologique, il y a comme quelque part une circulation d'identité qui à la fois nous constitue. Et sans elle, nous n'existerions même pas. Donc je dirais, je crois que ce matin, Vincent fait passer des examens de métaphysique.
Et j'en profite pour remercier mes étudiants qui ont accepté de décaler les oraux de une heure.
Et ben, je pense qu'il y a une dimension métaphysique, en fait, de ces relations écologiques qui nous montre que pour exister, pour être même, il faut être en relation. Et si nous ne sommes pas dans ces relations d'interdépendance, soit nous n'existons pas, soit nous sommes menacés de destruction, désintégration imminente. Quoi.
Mmh. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est si on prend simplement la question du microbiote. Si je voulais être un petit peu provocateur, je dirais c'est quoi un corps humain? C'est essentiellement des bactéries et des micro-organismes. Nous avons beaucoup plus de cellules, de micro-organismes en nous que de cellules humaines. C'est assez... Donc nous sommes quoi? Nous sommes une symbiose. Et sans le microbiote intestinal, pas de digestion. Enfin, voilà, ce microbiote a un sens énorme. Nous sommes nous-mêmes en relation, en lien avec nous-mêmes. Nous sommes un écosystème, déjà nous-mêmes, une symbiose entre un nombre, je ne sais plus combien il y a d'espèces différentes, mais c'est absolument énorme, de micro-organismes, et qui en plus, non seulement ces micro-organismes nous sont nécessaires, mais ils nous signent. C'est que chacun d'entre nous avons une signature de microbiote particulière. On peut se différencier. Donc en fait, nous avons deux ADN. Notre ADN de naissance, l'ADN donc génétique de nos parents, notre ADN historique. Et puis nous avons un autre ADN qui est celui de notre symbiose, notre écosystème, avec ces espèces vivantes qu'on ne voit pas, mais qui nous sont absolument indispensables. Donc ça revient sur ce que tu disais. Ouais.
Ouais. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quel rapport cette différence fait-elle entre les créatures ? Vous avez parlé de valeur tout à l'heure, de valeur propre des créatures. Et puis, il y a la question de la dignité de l'être humain. Comment est-ce qu'il y a une hiérarchie à établir entre l'homme et le reste des créatures ?
Alors, je dirais, sur le plan théologique, qu'effectivement, parmi les créatures, l'être humain et la seule créature qui ait cette particularité d'être dotée de l'image de Dieu par création. Par création, il est créé à l'image de Dieu. Ça nécessite une action particulière qui est décrite en Genèse 1, 26 à 28. Dieu s'implique personnellement quand il veut créer la créature humaine, là où en fait l'action créatrice est plus diffuse pour les autres créatures. Hein. Je parle toujours de Genèse 1, donc c'est un signe très fort. Et la tradition chrétienne, la tradition éthique, morale chrétienne, a toujours vu dans cet acte de création à l'image de Dieu la source fondamentale, une des sources fondamentales de la dignité de la personne humaine. L'autre source, c'est la destination du salut, c'est l'appel au salut qui aussi confère cette dignité.
L'échelle de la grâce. Oui.
Le don de la grâce et donc d'entrer dans la résurrection. Et donc oui, effectivement, il faut penser un positionnement particulier de l'être humain dans la création. C'est pour ça que dans Laudato aussi, le pape François distingue la dignité pour la personne humaine et la valeur propre ou intrinsèque pour les créatures. Dans les deux cas, ça indique une gratuité. C'est-à-dire que dans les deux cas, l'être humain et l'ensemble de la création existent pour eux-mêmes et non pas dans un rapport d'instrumentalité. La raison instrumentale, c'est la philosophie moderne qui l'a canonisée en disant « tout le reste existe en fonction de l'utilité de la personne humaine ». Et non, la tradition chrétienne nous dit « non, dans le regard de Dieu, chaque créature est la création » existe pour ce qu'elle est. Et ça nous oblige à un certain décalage. Parler en termes de hiérarchie, on va peut-être développer ça, mais le mot hiérarchie, il est biaisé, parce que nous avons une conception hiérarchique qui est soit de type administrative, soit de type métaphysique de la philosophie antique. On est issu de ces représentations philosophiques qui ne sont pas nécessairement celles proposées dans la Bible et dans la réflexion chrétienne de l'Antiquité ou de l'époque médiévale. Mais peut-être veux-tu réagir à cela, Vincent ?
Vincent,
moi, je peux réagir, je ne sais pas, c'est complété peut-être. C'est-à-dire que là, cette question de la dignité, en effet, c'est ce que vous avez dit l'un et l'autre. Je pense qu'effectivement, on peut reprendre soit les catégories anciennes en pensant à une dignité ontologique, hein, voilà, donc là on reste dans les catégories métaphysiques, ou effectivement une dignité qui pourrait être une dignité plus fonctionnelle, c'est-à-dire que je peux moi admettre que telle ou telle fonction ou tel ou tel événement peut être digne ou non. Et donc effectivement, et là c'est tout le vocabulaire de la dignité qui est extrêmement délicat, fin, avec un champ sémantique très très développé, où me semble-t-il, si on arrive à parler d'une situation qui est digne ou indigne, si on arrive à parler du fait de se sentir digne ou indigne, sont des choses qui sont très courantes, qu'on entend très souvent, et d'ailleurs qu'on ressent, et c'est très bien.
Qu'on entend beaucoup dans les débats sur la fin de vie.
Qu'on entend beaucoup sur ce débat-là, où finalement, est-ce que mourir dans la dignité, ou souvent la question de la dignité est perçue comme les conditions propre à la mort, où en effet personne n'a envie de souffrir en mourant ou des choses comme ça, donc des conditions propres à la mort, où finalement la dignité va même être de s'approprier le moment de sa mort. Mais ça, je pense qu'on quitte un petit peu le débat d'aujourd'hui, mais cette question de dignité, me semble-t-il, et c'est pour compléter ce que disait Fabien à l'instant, il me semble que dans la société actuelle, la notion de dignité ontologique, celle-là est en train de disparaître progressivement au profit de cette dignité fonctionnelle, où finalement c'est une dignité à géométrie variable. Je vais admettre que certaines choses sont dignes ou pas en fonction de convictions qui, elles, ne sont plus des convictions fondamentales, qui sont ni théologiques ni métaphysiques, mais des conditions de situation. Je vais situer la dignité dans un certain nombre de fonctions et de fonctionnalités. Et après, dans ce sens-là, si la dignité ontologique disparaît au profit d'une dignité plus fonctionnelle, alors... eh bien, il y a un trouble s'opère, c'est-à-dire qu'effectivement, où se situe la dignité animale? Y a-t-il une dignité comparable? Est-ce que cette dignité finit par se circonscrire autour de la souffrance? Et donc, petit à petit, effectivement, une sorte de translation s'opère entre le ressenti humain et ce que l'on pense du ressenti animal. Et donc, effectivement, le ressenti humain qui se sent digne ou indigne va permettre de se dire « je vais me projeter sur un animal et donc je vais lui donner, je vais lui conférer par fonction une forme de ressenti à son tour vers cette question-là ». Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il me semble que notre société actuelle est en train progressivement de laisser partir les représentations, je dirais traditionnelle, faut les représentations plus exactement métaphysiques et théologiques, et au profit de représentations plus mécaniques. Et en ce sens, le réductionnisme de type mécaniste aide aussi à amener cette espèce de confusion qu'on pourra peut-être aussi développer. Mmh.
Sur cette question de l'utilité, puisque vous disiez, Fabien Revol, que les créatures ont été, les végétaux et les animaux ont été voulus tels quels, et pourtant ils servent quand même à la vie de l'homme.
Et surtout, ils se servent les uns les autres. C'est-à-dire que dans les relations de mutualité dans les écosystèmes, en fait, chaque être naturel a un positionnement dans un écosystème, justement parce qu'il apporte une contribution au fonctionnement de l'ensemble d'un écosystème, que ce soit une contribution de type énergétique ou de type matériel ou de type informatif ou de modification d'environnement. L'instrumentalité, elle est bien sûr inhérente aux relations écologiques, parce que sinon, l'ensemble s'effondre,
oui,
s'il n'y a plus ces,
oui,
relations d'utilité. Donc il s'agit de pas confondre l'idéologie de l'instrumentalité, donc de réduire l'autre à simplement un objet d'utilité, comme on l'a fait dans le droit français à partir du 19e siècle, et que de dire « oui, j'ai besoin des autres pour être ce que je suis, et donc je prélève, mais je fais attention à faire en sorte que je respecte les équilibres du bon fonctionnement écosystémique quand je prélève, et surtout j'essaye d'avoir une attitude de reconnaissance ». De ce qui m'est fourni parce que je suis en dépendance de ces relations écosystémiques. Oui. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu viens de dire, Vincent, par rapport dans le rapport entre dignité ontologique et dignité de fonctionnalité. Et là encore, je pense que le débat est biaisé parce que quand on a cette dignité de fonctionnalité, on a en arrière-fond probablement la causalité efficiente, mécanique, cartésienne, qui vise l'efficacité
le simple fait de donner, d'octroyer, c'est-à-dire qu'effectivement, d'octroyer une dignité en fonction d'un but.
Eh bien, en écologie, à cause justement de ce que je viens de dire, de la contribution des entités au bon fonctionnement du tout, cette part de contribution en philosophie de l'environnement depuis quelques dizaines d'années, ça rentre en compte dans la réflexion sur la dignité ou la valeur des créatures. Je pense à l'éthique de la Terre d'Aldo Leopold de 1949, dans lequel il dit la valeur morale d'une entité naturelle correspond à sa contribution à l'ensemble du tout. Et donc l'agir humain éthique correspondant, c'est un agir éthique qui promeut cette contribution, la bonne contribution des entités naturelles au bon ensemble du tout. Et donc quelque part, on reste dans un rapport fonctionnel. Et pourtant, ça va fonder un rapport de non-instrumentalité pour l'être humain vis-à-vis de ces créatures. Et c'est là où il y a un paradoxe, excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est pour établir la justice dans la réflexion éthique sur cette notion de dignité, mais aussi pour dire qu'on n'en est pas sorti, parce que débat actuellement.
Le conte du Nouï dit pareil, à cette époque-là, oui.
Voilà, sur cette question de la dignité, évidemment, on pourrait en parler encore pendant des heures. Je vous propose déjà de marquer une pause musicale. Nous écoutons un extrait de la création d'Ind. Dieu voit du haut des cieux son œuvre accomplie.
Und Gott sah jedes Ding, was gemacht hatte, und es war sehr gut. Und der himmlische Chor feierte das Ende des sechsten Tages mit lautem Gesang.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
La place de l'homme dans la nature, c'est le thème de l'émission, Vivante Église de ce jour. Nous sommes avec Fabien Revol, théologien et philosophe, directeur du centre Hélène et Jean Baster, et Vincent Grégoire Delory, maître de conférence en philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. Le pape François se refuse toujours d'utiliser des représentations de type pyramidal. Donc si nous partons de ce constat, l'homme serait plutôt dans l'interdépendance, quel est alors son devoir vis-à-vis de la création ? Vincent Grégoire Delory.
La représentation pyramidale, c'est une représentation qui nous convient. Oui. Elle est simple, elle est évidente. Nous sommes les seuls à avoir une pensée, etc. On peut trouver. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de se dire, mais qui sommes-nous, nous les humains ? J'aime bien déjà commencer cette question-là. J'aime bien dire à mes étudiants que nous sommes les seuls mammifères à avoir perdu le présent. C'est fini pour nous. Quand on dit « je suis », on perd le présent. On a comme passé, un futur. Oui. On vit sans présent, puis on ne connaît personne. Ça commence mal, hein. Je ne vous connaîtrai jamais, on ne connaît personne. On ne se connaît pas soi-même. Donc, justement, un humain qui a perdu le présent, qui n'a qu'un passé flou et un futur qui lui annonce qu'il va mourir, qui en plus ne connaît personne, ça commence très mal. Alors, avec ça, on se met en haut. Voilà, c'est comme ça. Ça nous permet d'avoir un très bon argument. On se dit, les animaux, eux, effectivement, ils ont peut-être qu'ils vivent mieux le présent. Hein,
ils ne se posent pas ces questions, en tout cas.
En tout cas, on pense, a priori, ils ne se les posent pas tant que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette hiérarchie, elle convient finalement à ce degré d'évolution qu'on se donne, effectivement. Et ça marche bien. Simplement, ce degré de hiérarchie, qui est tout à fait intéressant, semble nous placer dans une espèce de fonctionnalité princière sur une nature que nous devrions en tout cas dominer d'une certaine façon, ce qu'on entend assez souvent. Et on entend effectivement cette domination qui peut exister sur tous les plans. Mais si on reprend en effet le texte de la Genèse, il semble bien que le texte hébreu ne parle pas vraiment de domination, mais il y a aussi la connaissance, hein, après la connaissance originelle, le péché originel, d'en connaître la nature. Et cette injonction divine de connaître la nature, c'est ainsi prendre une responsabilité qui, elle, oui, est sommitale. Et ça me semble tout à fait intéressant, c'est qu'il s'agit pour moi non pas vraiment d'une hiérarchie liée à notre place, parce que nous avons construit des maisons et puis nous avons fabriqué des radios, tout ça c'est formidable, mais nous avons certainement peut-être une hiérarchie dans l'ordre du service, et c'est là où peut-être que les choses viennent se transformer quelque peu, et c'est là où peut-être se transforme aussi notre regard sur les animaux, dans cette hiérarchie, non pas, je le répète, ontologiquement supérieure, on va dire, si je puis dire ça comme ça, mais dans une volonté, dans une compréhension, dans une conscience profonde, à la fois de comprendre et de servir ces écosystèmes.
Mmh. Fabien Revol.
Oui, je vais aller dans ce sens en disant que peut-être que le premier mouvement à faire, c'est de renverser la pyramide. Parce que, effectivement, être créé à l'image de Dieu, ça implique une dignité inédite et irrévocable parmi les créatures, mais ça implique la responsabilité de la domination. Mais la domination, c'est ensuite, il faut l'interpréter. C'est-à-dire, déjà, les textes, les verbes qui vont être utilisés en Genèse 1 et Genèse 2 vont nous orienter vers une fonction de service. Genèse 2,15, Dieu prit Adam et le mit dans le jardin pour le cultiver et le garder. Cultiver, en fait, ça a été un choix de traduction, mais le sens littéral, c'est servir.
Eh oui, c'est pas pareil quand même. Hein.
Et c'est le même verbe qui est utilisé pour le prêtre dans le temple de Jérusalem. Servir. Donc, on pourra y revenir sur cette dimension sacerdotale. Mais ensuite, on peut se poser la question dans cette lignée, qu'est-ce que, pour Jésus, nous qui sommes chrétiens, on lit l'Ancien Testament avec la lumière du Nouveau, avec l'événement Jésus-Christ. Pour nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire régner ? Les premiers seront les derniers, dit Jésus. Et si vous voulez savoir ce que c'est que d'être le maître, ben regardez ce que je fais, je vous lave les pieds. Donc, dominer la création à l'image du Christ, ben, ça veut peut-être dire...
C'est finalement la servir.
La servir. Mm. Donc, c'est pour ça que je parlais d'abord d'inversion de la pyramide. Ensuite, d'un point de vue écologique, si on veut réfléchir à une représentation qui ait un peu plus de sens pour penser la hiérarchie, ça rejoint ce que je disais à partir d'Aldo Léopold tout à l'heure, avant la pause musicale. Les entités naturelles dans un écosystème... Elles ont une fonction plus ou moins importante dans le bon fonctionnement d'un écosystème. Je prends toujours l'exemple de comparaison en disant, qu'est-ce qui a de plus de valeur dans une forêt? Un cerf ou un ver de terre? Une, je dirais, pour caricaturer, qu'une philosophie d'une ontologie classique dirait, bah évidemment, le cerf,
oui,
il est
parce
plus
que c'est
complexe,
plus beau, plus
il a
noble.
Une plus grande noblesse, oui. il est plus proche de l'être humain dans ses représentations, dans ses fonctionnalités, dans sa relationnalité. Et ouais, sauf que s'il n'y a plus de cerf, évidemment, dans une forêt, ça va poser des problèmes à la forêt. Mais si vous enlevez le ver de terre, il n'y a plus de forêt. Donc, quelle fonction écologique est plus importante et qu'est-ce qu'il vaut mieux préserver dans ce contexte-là? Donc en fait, pour moi, la représentation qui devient plus intéressante, c'est une représentation en réseau. Vous imaginez en fait un filet, mais où les nœuds du filet n'ont pas la même taille. C'est-à-dire que s'il y a des nœuds du filet qui vont correspondre à des fonctions écologiques fondamentales et qui vont accorder une valeur, je n'ose pas dire dignité, mais une valeur en tout cas plus importante qu'un autre qui dans un écosystème donc, dont il pourrait se passer. Et donc l'être humain, pour moi, il est dans le filet et il a une taille particulière qui est déterminante. L'être humain aujourd'hui est un acteur écologique déterminant pour l'avenir de la planète. Donc oui, l'être humain a une valeur écologique, je dirais, énorme.
En tant qu'il est au service.
En tant qu'il est au service de l'équilibre, du bon fonctionnement de l'écosystème, de la préservation de ses propres conditions d'existence, notamment.
Mm-hmm. Vous voulez ajouter quelque chose, Vincent Delorier ?
Ça revient, c'est intéressant ce qui vient d'être dit, parce que cette métaphore du filet, on la retrouve aussi dans une des possible définition du vivant. Vous savez, le vivant, il y en a des dizaines, voire des centaines de définitions scientifiques possibles. Toutes sont très, très intéressantes, mais aucune n'est suffisante. Il ne faut quand même pas oublier qu'on ne sait pas, en vérité, définir de manière suffisante, totale, le vivant. C'est déjà en soi très intéressant. Hein, c'est-à-dire que la biologie travaille sur... est une science qui ne sait pas définir totalement sur quoi elle travaille. Mais ça, c'est déjà très, très intéressant. Et certaines définitions, je pense à celle d'Alain Prochiance ou d'autres, qui voient un petit peu ces écosystèmes vivants, un petit peu dans ce type de métaphore du filet, où finalement, nous sommes tous en lien, et que l'être vivant est ouvert sur le reste. Il y a une sorte de continuum qui fait que nous avons besoin d'avoir notre intérieur et notre extérieur. Il faut bien que nos corps soient là pour avoir un être au monde et nous signifier en tant que tel, mais avec une ouverture telle que finalement le lien, la relation que tout être vivant a avec son environnement est d'une complexité bien plus fine, et que finalement cette métaphore du filet se retrouve aussi dans les définitions possibles du vivant en tant que maille d'un écosystème, un écosystème beaucoup plus grand, et l'humain qui participe à cet écosystème avec des fonctions, comme tu l'as dit, évidemment, responsabilité beaucoup plus forte, mais avec finalement une des mailles de ces systèmes. Et c'est extrêmement intéressant de le voir de cette façon-là, où même les définitions rejoignent cette question de mailles qui rejoignent elles-mêmes les structures qu'on peut retrouver cérébrales ou l'évolution désormais de l'Internet, ou choses où tout est finalement un réseau. Et ce réseau qui finalement est un réseau qui permet de faire émerger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui émerge de ce réseau au sein duquel l'humain participe en relation avec cet ensemble d'écosystèmes? Des émergences sont toujours possibles, et de très belles émergences.
Et pour nos auditeurs, vraiment, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'un nivellement d'une uniformisation. Au contraire, pour employer des termes plutôt théilardiens, c'est se rassembler, s'unifier, mais en se différenciant. Et justement, en comptant sur la contribution essentielle de chacun des membres du système.
Tout en maintenant et en percevant notre dignité ontologique.
Oui. Vous avez abordé, Fabien Revol, ce terme de fonction, de rôle sacerdotal de l'homme par rapport au reste de la création. J'aimerais bien que vous nous précisiez cela.
Alors, l'être humain, on a commencé par dire qu'il était créé à l'image de Dieu. Et donc, de ce principe, on peut tirer aussi une fonction spirituelle et mystique, mais aussi très technique, c'est de représenter Dieu dans la création. En tant qu'il est porteur de l'image, et donc il est appelé à imager Dieu dans la création de manière active. Voilà, ça c'est important, puis ça a aussi une fonction liturgique. Mais d'un autre côté, il y a tout un pan de la tradition occidentale qui, s'appuyant sur Genèse 1, va aussi dire que l'être humain porte en lui toute la création. Il porte en lui le reflet de la création. C'est un microcosme dans le macrocosme, ou plutôt il porte, c'est un microcosme qui porte en lui le macrocosme, il porte en lui le résumé de toute la création. Ça, c'est Saint-Hildegard de Bingen qui nous invite à penser cela de manière très imagée. Et donc, toute la création, on peut la repenser sous la forme d'une poussée. Tu parlais de toute l'évolution de la création. C'est, pour moi, toute l'histoire de la création, c'est la poussée de la création pour faire advenir la créature humaine qui va représenter toutes les créatures devant Dieu. Et il va avoir une fonction proprement eucharistique, c'est-à-dire l'offrande de la création dans le pain et le vin, pour qu'il soit transformé en corps et sang du Christ. Donc, le pape François insiste beaucoup sur cette vocation de l'être humain d'être une sorte de berger de la création pour... dont la responsabilité, c'est d'emmener toutes les créatures et toute la création vers leur fin, c'est-à-dire l'union à Dieu. Mmh. Voilà. Donc la fonction sacerdotale, elle est une fonction médiatrice qui va dans les deux sens, représenter Dieu pour la création, représenter la création devant Dieu.
Merci pour ces précisions intéressantes. Alors, on va quand même parler des biotechnologies. Il nous reste quelques minutes. Elles viennent bousculer cet ordre entre l'homme et la nature en faisant des animaux des créatures augmentées et puis aussi l'homme en étant aussi augmenté par ces biotechnologies. Comment la frontière entre l'homme et l'animal se trouve modifiée ?
Alors, pour ce qui est des biotechnologies, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Entre l'aspect fondamental des sciences en biotechnologie, de plus en plus, effectivement, le vivant est censé être perçu, quand on veut en tout cas au moins essayer de le modéliser, ben, comme un système biologique, mmh. enfin un système chimique, hein, biochimique, comme un autre. Et ça fonctionne assez bien, c'est-à-dire qu'on est capable de plus en plus de modifier le vivant pour l'orienter vers des fins qui n'avaient pas été prévues a priori dans l'évolution naturelle. Et effectivement, on a eu donc progressivement le vivant, je dirais seul, voilà, tout seul, qui se développe comme il peut. Puis arrive l'humain. L'humain, on commence avec la révolution néolithique à faire les premières biotechnologies, si je puis dire. C'est quand on commence à ne fût-ce qu'à croiser des plantes pour arriver à avoir du blé, par exemple, pour développer ce type de plantes. L'agriculture qui arrive, et puis même les animaux qu'on va croiser les uns avec les autres. Et puis, petit à petit, on va arriver à un croisement qui n'est plus à l'aveugle, mais on va revenir vers la question biologique, vers l'ADN, on va modifier l'ADN. Et là arrive la grande révolution actuelle, qui est celle de l'intelligence artificielle, car en effet, jusqu'à présent, l'humain avait comme terrain de jeu, si je puis dire, la nature. Alors, terrain de jeu entre beaucoup de guillemets, hein, puisque avec tout ce qu'on vient de dire, avec tous les bémols que nous venons de donner, mais terrain de jeu quand même, on modifie. C'est vraiment un teckel, ça n'existe pas. Il a bien fallu qu'on le fasse. Je ne sais pas si le teckel aurait pu être arrivé naturellement. Mais enfin, voilà, un teckel, ça n'existe a priori pas vraiment. Mais enfin, nous l'avons voulu. Et donc, effectivement, nous agissons sur la nature. Et progressivement, on s'aperçoit que ce côté un petit peu... Cette action presque démiurgique, cette action prométhéenne, cette action que nous avons depuis toujours sur la nature, et d'ailleurs, il est bon de l'avoir aussi. Attention, je ne dis pas... C'est bien d'avoir une action sur la nature, puisque dans la responsabilité qui a été évoquée tout à l'heure. Et là, de plus en plus, arrivent les biotechnologies avec intelligence artificielle. Or, l'intelligence artificielle permet effectivement des calculs d'une très grande puissance. Et donc, l'intelligence artificielle, on lui demande désormais de trouver des solutions pour modifier le vivant à des buts précis, généralement, pour trouver des molécules à intérêt économique, que sais-je encore. Et bien, désormais, ce qui nous paraît étonnant, enfin, ce qui moi me paraît étonnant, c'est qu'on arrive à cette ère du vivant nouvelle où nous devenons nous-mêmes la matière de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle modifie, toute seule, si je puis dire. Et donc, on arrive maintenant, on devient nous-mêmes la matière. Nous étions nous-mêmes prométhéens jusqu'à présent, l'outil prométhéen devient finalement l'intelligence artificielle. Nous devenons donc, le matériau de l'intelligence artificielle. Mmh. Ça, c'est une première réponse qui est peut-être un petit peu négative ou en tout cas pessimiste. La deuxième, qui est beaucoup plus optimiste, c'est que la science se rend compte de ce genre de choses, et en particulier sur l'impact des écosystèmes, de nos économies diverses et variées. Et là, je viens de répondre à un appel d'offres d'un projet ANR porté par l'INRA, nous avons obtenu à l'ICT, et qui justement, en gros, pose la question de la pensée des écosystèmes nouveaux au temps de la bioéconomie circulaire. Alors, ça peut paraître un petit peu technique, mais ce que voient les scientifiques, c'est que le changement, l'impact des sciences, en particulier des biotechnologies sur nos écosystèmes est tel que, eh bien, il faut le penser en amont. Et ça, la science commence à le faire. Et ça, c'est une vraie révolution aussi. Jadis, on avançait, le process scientifique avançait, puis on regardait l'impact quand il y était. Là, on se dit en amont, que va-t-il se passer dans le sens d'un raisonnement écosystémique dès lors qu'on va changer complètement les modes de production avec des bioéconomies circulaires qui se veut, elle, vertueuse par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure. On conserve évidemment l'usage de la nature, mais en ayant quand même une volonté de préservation, de circularité. Et ça, ça se fait aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, on a l'intelligence artificielle qui joue sur nous, d'une certaine façon, avec beaucoup de guillemets, et d'autre côté, des scientifiques qui prennent ça tout à fait à cœur, et l'INRA en particulier, le prend à cœur et investit de l'argent sur cette réflexion-là. Donc oui, je pense qu'il y a quand même une confluence actuellement. Oui, on a parlé des animaux, tu viens de parler de cette question aussi de sortir de la hiérarchie, de cette hiérarchie-là. Et je pense qu'il y a une vraie confluence qui fait que finalement, on se retrouve sans vraiment nécessairement l'avoir voulu, scientifique, théologien, philosophe, se retrouve vers un sujet commun, de ces écosystèmes, et c'est absolument passionnant. Et je pense que ma première réponse qui parlait de l'IA, elle était un petit peu négative. Oublions-la peut-être, ou en tout cas, connaissons-la, sachons-la, voilà. Regardons un petit peu quelles peuvent en être les responsabilités. Mais il y a aussi beaucoup de choses très belles qui se font grâce aussi à la science. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier.
Voilà, c'est plein d'espérance. Merci beaucoup Vincent Grégoire Delory, maître de conférence en philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. Et merci Fabien Revol, théologien et philosophe, directeur du Centre Hélène et Jean Baster. Merci pour vos précieuses réflexions.
Merci à vous.
Merci, au revoir.